le fait que notre société nous parle beaucoup d'identité, les jeunes sont perturbés, se posent beaucoup de questions, qu'est-ce que je vais devenir, qui suis-je, pourquoi suis-je ainsi, pourquoi suis-je comme cela, pourquoi est-ce que je réagis comme ça, j'ai besoin de me trouver. On se retrouve dans des discussions parfois avec des discours assez fous. On se rend compte que le flou est assez fortement ancré maintenant dans les cœurs, et c'est compliqué. Donc on avait vu un petit peu que ça date depuis la nuit des temps, où Satan a semé le doute dans le cœur d'Adam et Ève. Il leur a dit, est-ce que vraiment Dieu a dit ceci ou cela ? Et on a compris que Satan fonctionnait d'une certaine manière, pas forcément avec des mensonges énormes, mais avec toujours ce doute, avec ces demi-vérités. Il vient susciter voilà, une demi-vérité, et on n'est plus dans la pleine vérité. N'étant plus dans la pleine vérité, on se perd, on se cherche là où on n'aurait pas besoin de se chercher. Et on perd du temps. Donc ça, on a parlé de ça. Papa, la semaine passée, nous a parlé de la nécessité de vraiment vivre avec le Saint-Esprit. Que sinon, on est dans des pensées, des idéologies, peut-être des fonctionnements, des habitudes, et que sans le Saint-Esprit, finalement, on ne peut pas faire grand-chose. Alors pour moi, ce matin, je vais m'arrêter sur une parole de Jésus. On va tout de suite la projeter, un verset dans Jean 15, au chapitre 1, verset 1 à 8, il me semble. Et on va lire ça ensemble. Les paroles de Jésus sont toujours incroyables. Et là, il va nous dire, c'est moi qui suis le vrai cep, et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il l'enlève, et tout sarment qu'il enlève, et tout sarment qui porte du fruit, il le taille, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même, sans rester attaché au cep. Il en va de même pour vous, si vous ne demeurez pas en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Ce qui manifeste la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. Vous serez alors vraiment mes disciples. Quand on lit ce passage-là, c'est assez clair. Et ça nous interpelle quand même. Mais j'aimerais quand même m'arrêter deux secondes sur ce qu'est... Est-ce que tout le monde a vu une vigne, a déjà vu une vigne? Comme ça, on sait de quoi on parle, sinon toute la prédication, tu vas être à côté. Hein. Donc, le cep, c'est vraiment le tronc qui est entrelacé comme ça, et qui est solide. Puis ses racines dans le sol, il y a le cep, et ensuite, ça donne les petites branches, et puis vous avez le sarment, les fruits que donne le fruit. Donc, vous voyez ce tronc qui est là, qui est solide, et on voit qu'il reçoit, ce tronc-là reçoit la vie des racines. Et ensuite, il va les distribuer continuellement, et bien finalement, pendant une saison, une période, il va distribuer cette vie-là au sarment. Et c'est important de comprendre ça parce que si Jésus prend cette image-là, c'est pas pour rien. S'il prend cette image, c'est parce qu'il veut nous parler. Vous savez que Jésus, lorsqu'il parle, il y a toujours une réalité spirituelle qui est cachée derrière. Il dit pas les choses par hasard. Et on sait qu'à ce moment où il parle, ils sont en route. Et puis il doit passer par des vignes quelque part, je sais pas où, à Jérusalem. Et puis il va s'arrêter, il va prendre cette image-là, il va parler, il va donner cette parole-là qui nous interpelle. Parce qu'ici, on a la question du salut, on a la question de notre attachement à Christ. On a la question aussi de ce qu'on porte. Et sur quelques versets et une image, Jésus nous parle de tout et nous résume finalement l'évangile, ce que lui-même attend de nous, ce qu'il a fait pour nous et ce que nous sommes capables aussi de produire. Donc c'est intéressant. Donc lorsque Jésus donne ses paroles, il est à quelques heures de la croix. Et il ne nous donne pas une méthode pour réussir sa vie chrétienne. Il nous donne juste cette image. Et il va nous dire, portez du fruit. Il nous encourage. Les gars, c'est important de porter du fruit. Sinon, tout ce qui existe ne sert pas à grand-chose. Il faut porter du fruit. Et il commence par dire, comme assez souvent, Jésus, il va dire le « je suis », le fameux « je suis » qui nous interpelle dans l'Évangile. Et là, il va dire « je suis le cep ». Je suis le cep. Tout comme il a dit « je suis le pain de vie ». Il a dit également « je suis la lumière du monde ». Il a dit « je suis le bon verger ». Il a dit « je suis la résurrection et la vie ». Et là, il nous dit « je suis pas seulement le cep ». Il dit « je suis le vrai cep ». Et c'est là que ça m'intéresse. Parce que ça veut dire qu'il peut y avoir de faux cèpes. Des endroits dans ta vie où tu vas puiser tes ressources, mais qui ne sont pas réellement le cep que Dieu attend. S'il dit « je suis le vrai cep », c'est évidemment qu'il y a une raison. Donc, comme je vous l'avais dit précédemment, avant de transformer nos vies, Jésus nous révèle toujours sa personne. Premièrement, il nous révèle sa personne, on le rencontre, on le découvre, on voit qu'il est, puis il y a une transformation qui se fait en nous. Parce que dans le royaume de Dieu, la révélation précède toujours la transformation. Tu ne peux pas être transformé en Jésus-Christ sans avoir eu Christ révélé dans ton cœur. Ce n'est pas possible. C'est d'abord la révélation, puis la transformation. Beaucoup cherchent la transformation par de toutes sortes de moyens humains. Je veux m'améliorer, je veux être meilleur, j'aimerais devenir. Mais finalement, on se rend compte que Jésus est dans le royaume de Dieu, ça fonctionne différemment. Tu as besoin de connaître Dieu et ensuite, ce qui va se passer, c'est que ça va produire quelque chose en toi de manière naturelle. La vie de la vigne est naturelle. Elle est plantée si elle est au bon endroit, avec la bonne, les bonnes conditions climatiques. Excuse-moi, j'ai oublié ton prénom, Julien, c'est ça? Julien, toi tu me regardes, tu es intéressé, parce qu'on est dans ton domaine, hein, je le vois, il regarde, il dit, est-ce qu'il dit pas de bêtises? Rappelle-moi, c'est quoi ton travail? Agronome, vous voyez, à la fin il va me faire une... Donc vous voyez, il s'amuse à faire pousser les choses et il faut que toutes les conditions soient réunies. Si les conditions ne sont pas réunies, eh bien, on ne porte pas de fruit. Et si on plante, c'est pour avoir du fruit. Donc c'est intéressant de comprendre ça et comprendre la volonté de Dieu. Parce qu'en fait, lorsqu'on parle du cep, et Jésus s'arrête sur ce cep-là, il va nous parler de ça par hasard. Parce qu'on a toujours parlé d'Israël comme la vigne de Dieu. Et si dans l'Ancien Testament, Dieu a parlé d'Israël comme de sa vigne, c'est parce qu'il attendait de son peuple quelque chose. Et Jésus, il s'arrête et il dit « Je suis le vrai cep maintenant. » C'est fini, je suis venu accomplir la loi. Et étant donné que Dieu voulait que son peuple soit une vigne qui porte du fruit, maintenant moi-même, je prends ce rôle et je suis le cep qui apportera la vie et qui produira du fruit. C'est ce que Jésus dit. Et on va voir en Jérémie 2, verset 21, ce qui nous est dit. Donc, Ésaïe lui, nous dit aussi, on ne va pas prendre le verset, que Dieu a planté une vigne parfaite, mais elle produisit des raisins sauvages. Et Jérémie 2, verset 21 nous dit, « Je t'avais planté comme une excellente vigne, comme tu t'es changé pour moi en une vigne étrangère. » Au verset 21, il nous dira, « Une vigne étrangère. » Incroyable, il y a eu quelque chose qui s'est passé et Dieu ne reconnaît plus son fruit. Et j'aimerais te poser cette question aujourd'hui. Est-ce que Dieu reconnaît son fruit dans ta vie? Parce que c'est la chose la plus importante. Souvent, et c'est en ce moment, ça me travaille. Parce que vous savez, il y a beaucoup de chrétiens qui aiment bien dire « je suis d'accord, je ne suis pas d'accord ». J'en ai parlé, je ne sais plus avec qui ce week-end, « je suis d'accord avec cette méthode, je suis d'accord avec cette église, je ne suis pas d'accord avec cette théorie, je ne suis pas d'accord avec ceci, je suis d'accord avec un tel ». Et puis quand tu écoutes ça, et au fond de moi, il y a toujours ce truc en moi qui me dit « mais est-ce que tu te rends compte que l'univers entier se fout si tu es d'accord ou pas d'accord ?» Moi-même, je m'en fous. Dieu s'en fout. Excusez-moi de parler comme ça. Ce qui intéresse Dieu, c'est ce que tu portes le fruit pour lequel il t'a planté. Donc, est-ce que toi, tu es en accord avec sa volonté? C'est ça qui l'intéresse. Que tu sois en accord ou pas avec un fonctionnement, avec une idéologie, même du monde, si tu n'es pas d'accord avec la politique, l'État, le président, peu importe. Ce qui intéresse Dieu, c'est est-ce que tu es en accord avec le désir de mon cœur? Mercredi soir, on a prié, et le thème de la prière, c'était, à un moment donné, Jésus va voir cet aveugle, et il lui dit, que veux-tu que je te fasse? Ben, attends, je suis aveugle, je veux que tu me guérisses. Et vous voyez, parfois, Jésus nous met face à des situations où il va nous dire, qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Il sait très bien ce que tu as comme problème. Il connaît tout, on l'a entendu. Wilfried nous a dit, Dieu ordonne toutes choses. Mais il va te dire, qu'est-ce que tu veux? Parce qu'il a besoin que tu nommes les choses. Il a besoin que tu fasses, tu mettes les mots sur ce qu'il y a sur ton cœur, tu mettes les mots face à ta réalité, et qu'au final, tu laisses l'occasion à Dieu de te reprendre. Parce que lorsque tu es sincère avec Dieu, tu dis, Seigneur, tu vois, je veux vraiment ça. Mais que tu es en désaccord avec la volonté de Dieu, mais que tu es sincère avec Dieu, tu lui parles comme un père. Là, il va dire, bon, écoute, je comprends, mais ma volonté, c'est ça. Et de là va naître une révélation qui va confronter ton cœur à la volonté de Dieu, et soit tu choisis de suivre la volonté de Dieu, soit tu choisis de dire, ben non, je reste têtu, et mon idée, c'est Dieu. Vous voyez? Et c'est là où notre relation est importante avec Dieu. Parce que si on ne se confronte pas, on ne confronte pas nos pensées, on ne confronte pas tout ce qu'il y a en nous, nos sentiments, nos émotions, on a tendance à se planter dans une source qui n'est pas celle que Dieu veut pour nous. On se déracine de la volonté de Dieu pour aller dans nos idées. Et c'est des demi-vérités, parce qu'en plus, là, le malin, il vient et il t'encourage. Non, mais t'as raison de penser comme ça. T'as raison de ressentir ces choses-là contre un tel et un tel, parce qu'il t'a fait ça. Alors que Dieu, il dit, tu vas pardonner. Mais toi, t'es là et tu dis, non, mais je peux pas. Est-ce que vous comprenez cette idée? Donc Dieu veut qu'on porte du fruit dans tous les aspects de notre vie. On voit que Israël échoue. Adam échoue. Et Jésus dit, je suis le vrai cep, là où ils ont tous échoué, moi je vais réussir. Alors, on remarque bien que Jésus ne dit pas, imiter le cep. Parce que ce n'est pas possible d'imiter un cep. Je vais m'arrêter de bouger, puis j'attends. On ne peut pas imiter un cep. Il va dire, je suis le cep. Un cep ne s'imite pas, il communique sa vie. Il est là pour communiquer, pour puiser de la terre, amener jusqu'au fruit, il fait une transformation, il fait tout ce que vous voulez, la photosynthèse, etc., etc., vous irez étudier. Mais il se passe quelque chose, on va tirer les nutriments pour donner naissance à un fruit. Incroyable, il est là, il est ce rôle, il est ce pont. Jésus a dit, je suis le chemin, je suis la vie, je suis celui qui vous pardonne de vos péchés, qui vous donne accès au Père. Je suis le cep, je suis la lumière, je suis le bon berger. Et si on se prive de Jésus, d'une manière ou d'une autre, dans nos pensées, ça peut aller très vite, eh bien, on se déracine. On se fait une fausse... On peut demeurer dans de fausses idées. Alors ensuite, on a 1 Corinthiens 11, verset 1, où Paul dira « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. » La question d'être un imitateur ici, pour Paul, ce n'est pas d'imiter sa personnalité, ce n'est pas d'imiter, regardez-moi comment je fais, regardez, je voyage de part en part, je prêche l'évangile, vous devez tous être comme moi, faire des voyages missionnaires, et ce n'est pas ce que dit Paul. Paul, il dit, regardez-moi, regardez ma vie, regardez mon fruit, et soyez inspirés, imitez la présence de Christ en moi. C'est ça qu'il dit. Maintenant, ça s'exprimera d'une manière différente chez les uns, chez les autres. On va avoir une grappe plus ou moins épaisse, plus ou moins dorée, un raisin vert, un raisin rouge, peu importe. Mais l'intérêt, c'est de dire, regardez ce que je fais. Je suis Christ, je marche par la foi, je marche avec Jésus. Imitez-moi. Donc, la différence entre la religion et l'évangile, c'est que la religion cherche à reproduire extérieurement, comme un modèle, tandis que l'évangile communique intérieurement la vie. Et on est en droit de se poser la question chaque semaine, quelle vie a coulé en moi cette semaine? Et vous faites vite le... Vous voyez, Sandy, elle était malade, bah, c'était la maladie, mais à un moment donné, l'esprit s'exprime, parce que notre corps vit des choses. Mais quelle vie coule dans mes veines aujourd'hui, cette semaine? Qu'est-ce que j'ai transporté? Alors Galates 2, verset 20 nous dit « J'ai été crucifié avec Christ, Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et ça, c'est tout le défi c'est tout le défi de toute notre vie chrétienne, c'est ce verset-là. Tu peux l'afficher dans ton bureau et regarder ce verset tous les jours et dire, Seigneur, incroyable. C'est une réalité que je dois... C'est pas juste intellectuel. Là, dans ce verset, il y a quelque chose de profond que je dois appliquer à ma réalité, à ma vie. Pas dans le fait de devoir, mais dans le fait de vivre une expérience avec mon Dieu profonde. Et c'est tellement simple et en même temps tellement compliqué. Pourquoi tellement simple ? Parce que lorsqu'une vigne est plantée, naturellement, elle produit la vie. Ça veut dire que si nous sommes plantés en Christ, naturellement, nous produisons la vie. Mais pourtant, les faits nous montrent que parfois, notre raisin est un peu amer. Est-ce que ça t'arrive d'avoir un raisin un peu... Si je viens piquer dans ta vie, là, je vais dire, tiens, il y a un problème, ça, c'est pas très agréable. Pourtant, on est comme ça. Donc, il y a cette dualité, donc c'est tellement simple, et en même temps, c'est tellement profond. Donc, on n'est pas appelé à fabriquer des copies de Jésus. On est vraiment appelé à laisser vivre Jésus en nous. Et ça, c'est le défi. Notre challenge, tous les jours. Alors, souvent, on va essayer de faire ressembler notre vie à celle de Christ. Et c'est compliqué dans notre société. Parce que, lui, il se promenait en soutane, il n'y avait même pas de slip, pas de voiture. Il faisait des kilomètres à pied. Nous, on a une toute autre réalité. Mais on a besoin d'avoir les mêmes fondements, le même cœur, la même compassion qu'il y avait dans son cœur. Et finalement, c'est de se dire, Seigneur, est-ce que la vie de Christ prend forme en moi ? Donc, comme je vous l'ai dit, le véritable combat s'est déroulé en Éden. Et Satan a toujours essayé de couper la source de la vie. C'était son but. Est-ce que Dieu a vraiment dit ? À partir du moment où il coupe la source de la vie, il n'y a plus besoin de faire grand-chose, puisque tu es déraciné. Et puis, tu es dans une demi-vérité. Tu penses que tout va bien. Il n'y a plus besoin de faire grand-chose. Donc le premier péché n'est pas d'abord moral, c'est de nous séparer de notre source. Vous serez comme Dieu. Donc c'est la question, je vous l'ai dit, de vivre indépendamment de Dieu, de chercher toujours sa vie ailleurs qu'en Dieu. Pourtant Jésus a dit qu'il était venu restaurer ce qui était perdu. Ça veut dire que c'est possible de vivre cette vie profonde avec Christ qui impacte notre réalité. Et qui nous fait porter un fruit spirituel, humain, profond et digne de Christ. Dans la maçonnerie et les francs-maçons, ils vont aller jusqu'à un certain niveau de travailler leurs vertus, de se baser sur des fondements qui sont même parfois des demi-vérités bibliques. Ils vont travailler le caractère et tout ça, jusqu'à arriver à un moment donné où ils vont faire un constat simple qui est biblique. C'est pas possible de transformer la chair. Donc il faut dire, si ce n'est pas possible de transformer la chair, eh bien il faut céder à celui qui est le maître de la chair. Et c'est comme ça que ça se passe, jusqu'à un très haut degré. Donc vous voyez, on peut faire ça, nous. On n'a pas besoin d'être dans une organisation. Mais on peut se dire, c'est trop dur pour moi aujourd'hui. Eh bien aujourd'hui, je vais céder à qui je suis, à ma chair. Et pourtant, Jésus dit, tu peux puiser en moi. Et c'est notre défi tous les jours, c'est une réalité. Quand je vous parle comme ça, je sais que ça vous parle, parce que ça me parle aussi. Si ça me parle, ça te parle, parce qu'on est fait, comme dirait Thierry, de la même... On est fait de la même pâte. Alors Paul va nous avertir en Colossiens 2, verset 8. Donc Jean nous dit, comme on l'a dit dans Jean, Jésus réaffirme qu'il est le cep, qu'il est la source de notre vie, et Jean va nous dire plus... Paul, plus là, Colossiens 2, 8. Prenez garde, faites attention que personne ne vous prenne au piège par la philosophie, par des tromperies sans fondement qui s'appuient sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires qui régissent le monde et non sur Christ. Nous sommes responsables de faire attention à ce qu'on entend, comment on alimente notre cœur, ce qu'on voit. Donc, le problème, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas seulement le péché, c'est la pensée qui éloigne de notre source. Quelle pensée m'a éloigné de la source de mon salut ? Je parle à certaines personnes, on me dit, mais je ne suis pas sûr, j'ai des doutes sur mon salut. Écoute, si Si tu as des doutes sur ton salut, retourne à Christ. Et si tu n'arrives pas à retourner à Christ, retourne dans le monde. Parce que peut-être que le monde va te rappeler ce que tu avais gagné en Christ. Je ne peux rien te dire de plus. Ce n'est pas moi qui vais te convaincre. Je ne peux pas te convaincre que Dieu est bon pour toi. Tu as besoin de vivre sa bonté. Tu as besoin de vivre son amour. Tu as besoin de vivre par la foi. Tu as besoin de le connaître profondément. Et parfois, on s'éloigne, on revient. Mais l'important, ce n'est pas commencer à douter de tout ce qu'on a vécu. Voilà pourquoi on a des autels à monter dans notre vie. Le jour de ton baptême, c'est un autel à Dieu. Je me souviens pourquoi j'ai pris cet engagement. Le jour où Dieu m'a rencontré à tel endroit, c'est un autel que je montre à Dieu. Pour mon devoir de mémoire, ce que Dieu a fait en moi et ce qu'il a fait en toi, ce n'est pas ce qu'il a fait en moi. Mais c'est toujours par la même grâce, le même esprit, le même amour. On est tous différents. Donc, je vous l'ai dit, vérité déplacée du mensonge. Donc là, lorsque la vérité n'est plus gouvernée par Christ, qu'est-ce qui se passe? Le ministère est une vérité, d'accord? Le ministère. Mais hors de Christ, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ça devient un faux cep, c'est plus un bon fondement. Ensuite, la famille est une vérité. Mais hors de Christ, qu'est-ce que ça devient? Ta famille peut devenir une idole. Ma famille, ma famille, ma famille, ça peut devenir une idole. Ma famille en Christ, ok. Mais lorsque c'est hors de Christ, ça peut devenir une idole. Ensuite, les dons spirituels sont une vérité biblique. Les dons spirituels. Mais hors de Christ, ça produit quoi? L'orgueil spirituel. Hors de Christ, un don produit l'orgueil spirituel. Moi, je suis au-dessus. J'ai les dons. J'ai goûté à ça. On doit faire attention. Ça devient Corinthe. Tu vois, vous connaissez l'église de Corinthe. Hein, ils étaient fiers de leurs dons. Et puis, ils ont été repris. Donc, séparés de Christ, on enfle. La grâce est une vérité. La grâce de Dieu est une vérité. Mais séparés de Christ, ça devient un peu du laisser-aller dans notre vie chrétienne. La grâce, ça amène à laisser-aller. C'est notre abonnement à la licence d'un club. Moi, je suis sauvé par grâce, mais je fais ce que je veux. Donc, la sainteté est une vérité. Ah, être saint, faut être saint. Je suis saint parce que Dieu est saint, il fait de moi, il m'a sanctifié. Mais séparé de Christ, ça devient du légalisme. Parce que tu vas devoir faire ou pas faire pour garder, pour préserver ta sainteté. Mais tu ne préserves pas ta sainteté, tu reçois de ta filiation. Et parce que tu reçois, tu portes du fruit. Et il y a toujours cette question de où est-ce que je suis enraciné. Donc Jésus n'a pas dit « je vous montrerai la vérité », il a dit « je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie ». Jacques 2, verset 26. Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. On l'a entendu la semaine passée celui-là. Hein. Et il va ajouter en Jacques 2, 22, un peu avant, tu vois que la foi agissait, tu vois bien que sa foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, sa foi a été menée à la perfection. Sa foi a été menée par les œuvres à la perfection. Donc les œuvres ne remplacent pas la foi. Mais la foi produit les œuvres et révèle la vie. Il y a certaines personnes, vous vous rendez compte, quand elles sont dans un temps difficile, et ça dure, et ça dure, et ça dure, à un moment donné, vous avez dit, il n'y a plus la vie. Vous avez déjà vécu ça. Et je ne parle pas ici que des chrétiens, hein, peu importe. Il n'y a pas la vie, il n'y a pas une odeur de vie ici. C'est échec sur échec, déception sur déception, tristesse sur tristesse. Le fruit n'est pas bon. Vous savez le déceler, vous le voyez, le discours, la parole, l'expression, le visage, le sourire, tout disparaît. Donc la question, c'est de se dire, qu'est-ce que Dieu produit en moi? Donc, comme la grappe de raisin ne produit pas le cep, c'est le cep qui amène la vie, on a besoin de se poser cette question. Comment a-t-on vécu Christ cette semaine? Moi, c'était dur cette semaine, de vivre Christ. Est-ce que c'est dur pour vous ou c'est toujours facile? Parfois c'est dur, hein. Parfois c'est facile, vous avez l'impression de marcher sur l'eau. Oui, les circonstances vous influencent. On est perméable à ce qu'on vit. Et donc comme tu es perméable à ce que tu vis face à quelque chose, à un moment donné tu dois prendre autorité sur tes pensées parce que tu n'as plus le choix. Ce qui va t'attacher à Christ, c'est ce que tu sais être Dieu. Tout à l'heure quelqu'un me disait dans mon oreille qui recevait la pensée que Dieu agit dans l'invisible. Dans les choses qu'on ne voit pas. Le cep, vous ne voyez pas la vie qui vient des racines jusque vous ne le voyez pas, c'est juste là. Et parfois on a l'impression dans les temps difficiles, Dieu n'est pas là. Mais Dieu est toujours là. vous invite à écouter la prédication de Wilfried qui nous avait parlé que Dieu est toujours là. Même quand c'est difficile, il est à côté de nous. Et lorsqu'on garde la pensée que Dieu est toujours là, on agit différemment. Mais lorsqu'on accepte la pensée négative, on relâche Dieu, Dieu n'est plus là, et on sombre. Mais lorsque dans le temps difficile, on dit bah, « Seigneur, t'es là », c'est mécanique, et pourtant c'est difficile à vivre. Alors pourtant, Christ nous invite à dire « Venez, puisez en moi, c'est important ». Hébreux 13, verset 7. On va revenir sur la question de l'imitation. Paul a dit pas mal de choses. « Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quel est le bilan de leur vie et imitez leur foi. » Considérez quel est le bilan de leur vie. Ça veut dire qu'il n'est pas ici question de considérer ce qui se passe à un instant T. Cet homme de Dieu, il a fait quelque chose d'incroyable. Waouh, je mets toute ma foi en lui. Non. Considérez le bilan de leur vie. Considérez le fruit. Considérez ce qu'ils portent en eux. C'est important. Et c'est ça qu'on va rechercher. Tiens, c'est intéressant parce que je vois Christ en lui ou en elle. Et ça m'intéresse de vivre ce qu'elle ou il vit. Ça m'intéresse de m'approcher de telle personne parce que j'ai besoin d'acquérir ce qu'il a en lui. Tiens, il vit, par exemple, si tu es quelqu'un d'anxieux et que pour toi, c'est quelque chose vraiment attaché à ta personne et tu viens à l'église et t'en vois, et lui, il est toujours dans la paix. Tu dis, punaise, il passe par des expériences incroyables, mais il est toujours dans la paix. Approche, colle-le un petit peu, frotte-toi à lui. Ça va te faire du bien. Tu comprends? Parce que tu vas être un peu influencé par lui. Une parole, un regard. C'est pas des grandes prédications, parfois. C'est juste demeurer auprès de quelqu'un, ça vous fait du bien. Pas parce que vous adulez la personne, mais parce que vous reconnaissez Christ en lui. Il y a une transparence les uns envers les autres. De se dire, tiens, ouais, c'est dur, je vis des choses dures, mais je suis dans la foi. Mais je n'ai pas perdu courage. Non, mais si tu dis toujours ça va bien, ça va bien, bah, ça va bien. Tu vois, mais il faut accepter de dire c'est difficile. Mais je suis en Christ et Dieu me relève. En ce moment, tout va bien, je suis dans la joie. Et puis tu vois, je vis des choses incroyables avec le Seigneur. Et là, ça va t'encourager. Ah ouais, c'est vrai. Ah bah, je vais retourner prier aussi. Ça, on s'encourage les uns les autres dans nos expériences de vie. On vit sur la même terre, la même planète. Et du coup, ça te pousse. Tiens, t'es dans la maladie, ça traîne depuis 6 mois, c'est compliqué. Moi, j'ai la même chose et je me décourage. Et là, tu vas dire, mais tu sais, je trouve toute ma joie en Christ. Et je sais pas comment ça... J'ai vécu ce que t'as vécu, mais j'ai découvert un secret. T'as commencé à pratiquer Christ. Et c'est incroyable. Incroyable. Donc, on va imiter la dépendance des gens. Je vais voir Thierry, je vais imiter sa dépendance à Dieu. Me dire, punaise, lui, il a été dépendant à Dieu dans cette situation. Je ne vais pas l'imiter lui parce qu'il n'est pas comme moi. Mais je vais imiter son cœur qui dit, je choisis de rester dépendant à Dieu dans cette situation. Parce que systématiquement, quand on se décroche, je vous le rappelle, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est toujours l'ennemi. Est-ce que Dieu a vraiment dit? Ce que Satan a dit à Jésus dans le désert, c'est « si tu es le fils de Dieu ». Il sait très bien qu'il est le fils de Dieu. Mais si, à ce moment-là, il doute, c'est fini pour lui. Et il prend position. Donc, on a besoin de s'encourager dans ce sens-là. Parce qu'on vit des choses. On n'est pas des super-héros, imperméables, super forts en Dieu. Ce n'est pas vrai. On est fort parce qu'on puise en Christ dans nos situations. Alors, on a vu la semaine dernière, donc avec papa, qui nous a parlé de la puissance du Saint-Esprit. C'était important. Donc, dans certains milieux, on a réduit le baptême du Saint-Esprit à la recherche des manifestations. C'est-à-dire qu'on a enseigné, d'une manière ou d'une autre, de manière consciente ou inconsciente, c'est pas ce qui m'intéresse, mais la pensée est la suivante, baptême du Saint-Esprit égale manifestation. Ça a été enseigné. Et ensuite, on a eu dans d'autres milieux, donc là je vous fais un gros résumé, on a eu tellement peur des excès par rapport au Saint-Esprit, tellement peur des excès, qu'on a presque oublié que le Saint-Esprit était puissant, tu vois, que Dieu était puissant. On enferme tout dans des boîtes, ça c'est Dieu, ça c'est pas Dieu, et tout devient intellectuel et il n'y a pas beaucoup de vie. Et en fait, la parole de Dieu refuse ces deux extrêmes. Ça n'intéresse pas ces deux extrêmes-là. Parce que tout simplement, la vie en elle-même est puissante. La vie, tu ne peux pas la contenir en elle-même. La vie a une force. Hier, je m'étonnais, on était dans le jardin et toute la journée, on a laissé, vous avez vu, il a fait un peu moins chaud, donc on a, vous êtes comme moi, si vous n'avez pas de clim, on a laissé les fenêtres ouvertes. Et on a une glycine. Et alors, toute la journée passe, on travaille dans le jardin, comme on part en vacances, on essaie d'avancer sur tout ce qu'il faut avancer, sinon on va revenir dans 15 jours, il y aura plus de travail, donc on taille les, on fait les trucs. Et puis, je vais voir la glycine, et d'un coup, donc la fenêtre est ouverte, et je regarde, et la glycine, ça se déploie en petites branches comme ça, et vous arrivez à voir la nouvelle pousse, c'est vert clair. Et là, je vois un brin qui est complètement rentré dans ma maison. Et je dis, c'est fou ça. Alors je vais comme ça devant, je dis, mais attends, c'est rentré de 30 cm, pas 2 cm. Ce matin, quand j'ai ouvert la fenêtre, elle était peut-être accrochée sur la brique, hein, placée différemment, mais elle s'est retournée pour rentrer chez moi. Je laisse la fenêtre ouverte, je reviens dans 15 jours. J'ai un jardin naturel. La vie, sans rien dire, sans faire de bruit, elle pousse. Incroyable. Chanel, elle arrose effectivement tous les matins. Elle aime bien sa glycine. Elle arrose, elle coupe un peu ce qu'il faut couper. Et j'étais étonné. Je me suis dit, waouh, la vie. La vie, tu. C'est pas chapa, baba, 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 pousse. C'est juste, elle a poussé. Elle est charismatique. On aime bien chababater. Arrêtez de chababater. Soyez spirituel. C'est ça qui est important. À coup de chababa, on pense qu'on va tout faire pousser. Et c'est un extrême. Et là, moi j'ai continué ma vie, elle a poussé. Incroyable. Eh bien, c'est ce que Dieu veut faire en nous quand on est bien enraciné. Il y a des choses qui vont pousser naturellement, qui vont venir. Donc la vie est puissante par nature. Et le cep produit naturellement la vie. Et il faut savoir que pour ce qui communique les nutriments aux sarments, c'est quoi? C'est la sève. Je me trompe pas, Julien? C'est la sève. Et bien pour nous, l'image, ça va être la sève, c'est le Saint-Esprit. Il va puiser dans les ressources du Père. Il est fait passer par Christ qui a tout accompli à la croix. Et puis il nous les communique à nous. La sève, c'est le Saint-Esprit. Et c'est pour ça qu'il faut être en communion avec le Saint-Esprit pour le laisser voyager en nous. Laissez voyager en nous, laissez traverser nos sentiments, nos émotions, nos frustrations, nos douleurs, nos objectifs, ce qu'on aimerait atteindre et dire Seigneur, ok, ça ne veut pas dire je ne vais rien faire, je suis acteur de ma vie. Mais je laisse cette sève monter, je la laisse prendre en moi, je la laisse traverser mon cœur. Alors, le Saint-Esprit, ce n'est pas une puissance supplémentaire du christianisme, ça fait partie profondément de notre vie. Si tu te prives du Saint-Esprit, tu vas te priver de fruits. Sauf que Dieu veut qu'on porte du fruit. Et si tu ne veux pas, toi, porter fruit parce que ça t'agace de porter du fruit, ça te coûte trop dans ta semaine, ben tu deviens un chrétien religieux. Et tu n'es pas en accord avec la volonté de Dieu. Et vous voyez, ce n'est pas plus compliqué que ça. Est-ce que j'étais en accord avec le fruit que Dieu voulait que je porte cette semaine? Moi, parfois, je ne suis pas en accord. Hein. Je râle. Parce que faut que je fasse ceci, faut que je fasse ça. Je suis un bon français. Il y a des bons français ici, quand même, ouais. Hein? Il y en a, ils sont pas français, mais le fait d'être avec les Français, ils râlent maintenant, tu vois. Vous êtes influencés. Sortez un peu, vous allez revenir positif. Alors vous voyez, on est un peu comme ça, c'est la réalité. Donc le Saint-Esprit, c'est une expression normale. C'est ce que j'aimerais qu'on comprenne dans notre Église, c'est que parfois on a l'impression que le Saint-Esprit, ça doit être quelque chose d'exceptionnel. À certains moments, il faut créer une ambiance pour qu'il y ait le Saint-Esprit, il faut chanter plus fort, il faut prier plus fort, il faut jeûner plus. Mais en fait, non, le Saint-Esprit est heureux quand juste on accepte la vie de Christ et il se manifeste. Il est juste heureux quand tu adores Dieu en toute simplicité. Et il se manifeste. Il est heureux quand tu viens parler à ton Père dans la prière ou dans la méditation et il se manifeste. Il est heureux quand tu étudies la parole de Dieu et que tu dis j'aimerais trouver une révélation pour ma vie. Il se manifeste. Tu n'es pas en train de produire quelque chose, tu vois, comme s'il fallait cette semaine que tu vois des miracles et des dons. Moi, j'ai essayé de faire ça quand j'étais jeune. Hein, avec Thierry, on était allé à, tu te souviens, à Arras évangéliser. Et puis une journée, je suis sorti, je vous l'ai déjà donné ce témoignage. Et je disais, Seigneur, je vais voir du miracle aujourd'hui. Ah ben, je suis sorti, j'ai vu aucun miracle. J'étais déçu, je suis rentré déprimé. J'ai dit, si c'est ça l'évangélisation, il y en a marre. Vous voyez quoi ? Oui, ça tourne dans nos têtes. Et puis le lendemain, je suis arrivé un peu plus humble. J'ai dit, bon, Seigneur, fais ce que tu veux. Et puis là, j'ai vu 3 guérisons en une matinée. Vous comprenez ce que je veux dire ? Parce que on laisse couler la vie. Parce que Dieu est Dieu, Dieu est roi, Dieu est souverain. Amen. Alors, est-ce que j'ai tout dit ? Voilà, Jean 16, verset 13, 14, pour vraiment appuyer le fait que le Saint-Esprit vient puiser au Père, communique. Quand le Consolateur sera venu, le Défenseur, ici dans cette version, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parle pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Donc l'Esprit, il révélera ma gloire parce qu'il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Vous voyez, il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Vous voyez le rôle de la sève ? Elle va puiser et elle vous ramène. Parfois, nous, on va essayer de puiser nous-mêmes. Dépend, parce qu'on ne veut pas du Saint-Esprit. On veut pas que... On veut contrôler notre relation. Vous voyez un petit peu ? Tu t'acceptes pas que le Saint-Esprit il va te dire un truc à un moment où tu t'y attends pas. Donc, tu maîtrises les choses et lorsque tu veux tout maîtriser, qu'est-ce qui se passe ? L'Esprit parle plus. C'est marrant, hein ? Et là, il révélera ma gloire. Vous l'avez vu dans Jean 15, la question c'est toujours porter du fruit pour la gloire de Dieu, pas pour nous. Il révélera ma gloire parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Moi, j'aime savoir ce que Jésus a à me dire. Et pour ça, j'ai besoin du Saint-Esprit. Je n'ai pas besoin du Shababa. Ah là, je vous ai perdu les charismatiques. J'ai besoin du Saint-Esprit. Et s'il veut que je shababate, je shababate. Vous comprenez ce que je veux dire ? Les dons du Saint-Esprit sont un don du Saint-Esprit. Ce n'est pas quelque chose qu'on produit juste parce qu'on a envie, juste parce qu'on le désire. On doit soupirer après. On doit soupirer après le fait d'être efficace. De dire, Seigneur, tu veux que je porte du fruit, je veux me rendre disponible. Ça, oui, tu dois soupirer tout le temps et rester disponible. Si tu prophétises alors qu'il faut guérir, tu es passé à côté de l'objectif. Si tu parles en langue alors qu'il faut donner une parole de sagesse, tu es passé à côté de l'objectif. Et nous voulons exprimer tout ce que Dieu a à exprimer au travers de nous. Et c'est là notre grand défi. Alors, on a ensuite acte 1, verset 8. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Vous recevrez une puissance. La vie est puissante. La vie de Dieu est encore plus puissante. On ne crée pas la puissance, on la reçoit. On la puise dans notre source. Alors, pourquoi attendre la Pentecôte ? Parce qu'on n'a pas besoin, Dieu n'a pas besoin de disciples qui parlent de Jésus, mais il a besoin de disciples qui manifestent Christ. Ensuite, on va reprendre 2 versets qu'on connaît très bien. Galates 5, verset 22-23, vous le savez, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Ensuite, vous avez 1 Corinthiens 12, verset 4. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. C'est le même esprit. D'accord ? Pourquoi ? Parce que les deux, le fruit va révéler une chose de Jésus, les dons vont révéler une autre chose de Jésus. Premièrement, le fruit révèle le caractère de Christ dans ta vie. C'est son caractère, c'est sa personne, c'est sa personnalité qui s'attache à toi et qui nécessite de... Quand Paul il dit, il faut que Christ grandisse, vive en moi, qui grandisse en moi, il parle de ça, de ce fruit qui grandit, de Jésus qui prend place, de Christ qui prend forme en lui toujours plus. Et ensuite, on nous parle des dons. Mais les dons vont révéler le ministère de Christ, son rôle, ce qu'il doit faire, ce qu'il doit accomplir. C'est un outil pour nous. Ça ne révèle pas le caractère. C'est pas parce que Dieu guérit qu'il aime. Il aime avant de guérir. Et parce qu'il aime, il guérit. Nous, on veut guérir sans aimer. On veut exercer les dons sans la compassion. Mais d'abord la compassion, et ensuite ça produira une foi qui va aller chercher le don. Et c'est totalement différent. Sans compassion, c'est compliqué d'aller prier pour les malades. Si tu es chargé dans ta tête, tu es énervé, tu n'iras pas à prier pour les malades. Si tu es agacé, donc tu es obligé de gérer ça avant d'entrer dans ces choses-là. Mais ce n'est pas ces choses-là qui créent le caractère. Les Corinthiens ont vécu beaucoup les dons. À un moment donné, qu'est-ce qu'on leur a dit? Les gars, oh, il n'y a pas que ça. Jésus a dit à ses disciples, vous êtes contents que les démons vous soient machin, soumis, etc. Mais réjouissez-vous, parce que quoi? Parce que vous êtes sauvés. Alors la question, c'est de se dire, ok, dans quel état est-ce que je suis actuellement? Comment est-ce que je peux équilibrer les choses dans ma vie pour vraiment ressembler à Christ? C'est important. Lorsque Pierre, pourquoi la Pentecôte est importante? Parce que Jésus est ressuscité, il vient voir ses disciples, il fait quoi? Il leur souffle dessus, il leur dit « recevez le Saint-Esprit ». Ils reçoivent le souffle du ressuscité, ils reçoivent cette conviction. Ça y est, tout est accompli, c'est vrai. C'est la vérité, là, ils reçoivent cette vérité. Et après, mais attendez, ça ne s'arrête pas là. Allez là-bas, vous avez besoin d'une puissance. Parce que maintenant, il faut accomplir ce que j'ai prévu pour vous. Et pour ça, vous avez besoin que le Saint-Esprit soit sur vous. En vous, le souffle du ressuscité, c'est en nous. C'est personnel, c'est pour notre vie, c'est pour notre quotidien, c'est pour ressembler en Christ. Mais il faut qu'il soit sur vous, pour que vous soyez des témoins, pour la protection, mais aussi pour l'autorité qu'on doit exercer. Exercer la justice, exercer la paix, exercer vraiment les valeurs du royaume de Dieu. Et exercer les valeurs du royaume de Dieu sans l'esprit, ça va te coûter cher mentalement. Parce que ça va être dur. L'injustice qui règne dans ce monde. Tu vas essayer de te battre contre l'injustice une fois, deux fois par tes propres forces. La troisième fois, tu seras amer. Mais si tu as le Saint-Esprit en toi, qui est celui qui t'anime, qui te donne la force, qui te donne le courage, qui te permet de persévérer dans la joie, eh bien, tu peux exercer la justice dans la paix et dans la joie. Ce que je vous dis, ça paraît utopique. Et pourtant, c'est Jésus qui l'annonce. Je suis le cep. Vous êtes le sarment. Donc recevez ce que j'ai à vous donner et arrêtez de discuter. C'est ce qu'il veut dire. Arrête de discuter. Reçois simplement. Alors on ne veut pas chercher d'abord les œuvres, mais on veut chercher la vie. C'est ce qu'on vous a dit pendant 3 semaines. On ne veut pas chercher d'abord la puissance, mais on veut chercher le ciel, le royaume de Dieu, la communion. Et la puissance viendra naturellement, toujours plus. On veut chercher le caractère de Christ qui lui est visible pour le témoignage. Et le monde reconnaîtra, comme il nous est dit dans Actes 4, verset 13, ils reconnaissaient qu'ils avaient été avec Jésus. J'aimerais bien qu'on dise de nous, je reconnais que Anne, elle a marché avec Jésus. Les gens, ils voient que tu es différente. On reconnaît qu'elle a marché avec Jésus, elle n'est plus la même. J'aimerais bien qu'on dise de moi, ben Alexis, on reconnaît qu'il a marché avec Jésus. Étienne, tu as marché avec Jésus. Les gens vont le voir. C'est ça le témoignage. C'est pas juste Jésus t'a sauvé, reçois maintenant, païen, race de vipère, l'enfer est devant toi. C'est pas ça. C'est communiquer l'amour profond. Et pour ça, il faut se dépouiller nous-mêmes. Et c'est le côté le plus difficile de dire. Et je pense qu'une des réponses à cette question, c'est de se dire, est-ce que je suis planté, enraciné au bon endroit, dans une vérité en Christ qui fait de moi vraiment son enfant. Amen. On va prier ensemble. Saint Paul, si vous pouvez venir, on va passer un temps dans la prière. J'aimerais qu'on soit renouvelés.